Les racontars de Citrouille Amère. 10 minutes pour une œuvre d'art.
Blé Il Pé Radio.
Bonjour. Bienvenue dans ce nouveau racontard de Citrouille Amère. Dans cette séance, je vais vous faire revivre un peintre de la toute fin du XVIIIe siècle. Celui-ci, aujourd'hui, est oublié. Il est revenu sur le devant de l'actualité quand la légende noire qui lui était attachée s'est révélée vraie. Commençons par regarder le tableau qui a permis de valider la véracité de cette histoire. C'est une œuvre plutôt sombre, bien qu'elle soit éclairée par une grande fenêtre à meneaux. Celle-ci s'ouvre sur un ciel bleu parsemé de nuages. Dans la partie inférieure de la fenêtre, on aperçoit les frondaisons verdoyantes de quelques arbres. Un désordre domestique règne dans la pièce. Dans cette dernière, trois personnages sont présents. Deux femmes sont assises, tandis qu'un jeune enfant joue au sol près d'un panier. Une poupée, abandonnée, non loin, sur les tomates, nous suggère que l'enfant est probablement une petite fille. La jeune femme, assise au centre de la pièce, se tourne légèrement comme pour nous prendre à témoin et ainsi nous inviter à entrer dans le tableau. Ses cheveux sont pris dans un foulard ou une haute béguine. Quelques mèches rebelles émergent de sa sage coiffure. Son cou est souligné par une collerette de dentelle. Elle est vêtue d'une robe brune à manches longues. Elle est occupée à rabauder une pièce de tissu rouge. Une autre jeune femme, plus jeune, a approché sa chaise de la fenêtre afin de profiter de la lumière du jour. Elle pose ses pieds sur une chaise d'enfant. Elle aussi se livre à des activités de couture. Ses cheveux sont remontés en chignon. Elle porte une robe sans manches dans les tons verts foncés. Un châle couvre ses épaules et se croise sur sa poitrine. Nous sommes dans une cuisine. En effet, sur les murs de part et d'autre de la pièce, des ustensiles de cuisine sont accrochés ou posés sur des étagères. Sur le mur de gauche, en allant vers la fenêtre, des balais, un plumeau déponaillé, sont appuyés ou suspendus. Sous l'étagère, des casseroles de cuivre sont accrochées. Deux petites tables sont placées près de la fenêtre. Sur la plus haute, un pichet avec des fleurs rouges et blanches est posé contre le mur. Et tout à côté, une casserole de cuivre est abandonnée. Le mur en face, celui de droite, est doté d'une étagère. On y distingue un bougeoir avec une chandelle presque entièrement consommée. Puis une étuve, enfin une bassine de cuivre. Un torchon d'un blanc douteux est suspendu. Un peu plus loin, une chaise et une table s'adossent au mur. Une corbeille de linge est posée sur la table. Au fond, près de la fenêtre, une cheminée est visible dans la pénombre. Sur le mur de gauche, près des balais, des traces montrent la vétusté de la pièce. Le tableau, par la richesse de ses détails, évoque une peinture hollandaise du XVIIe siècle, l'âge d'or de la Hollande. À l'intérieur d'une cuisine, huile sur toile, 65 par 80 cm, Martin Drolin, 1815, musée du Louvre. Lorsque Martin Drolin peint l'intérieur d'une cuisine, il est à la fin de sa carrière. Le tableau est exposé au salon de 1817. La même année, le musée du Louvre acquiert le tableau auprès de son fils. Martin Drolin, mort quelques mois avant l'exposition, n'aura pas connu le grand intérêt suscité par son œuvre au salon. L'intérieur d'une cuisine a un pendant, l'intérieur d'une salle à manger. Ce tableau montre un intérieur bourgeois. Le sol est couvert de tomettes hexagonales. Les murs sont peints en vert avec des lambris crème à moulure verte. De nombreuses peintures dans des cadres dorés sont accrochées au mur. Dans la pièce, deux personnages, un homme et une femme. La femme est vue de côté elle range quelque chose dans un placard. Au premier plan, l'homme est assis en pantoufles dans un fauteuil. Il prend son petit déjeuner. En face de lui, son chien l'observe, dans l'attente d'une promenade ou d'une friandise. Dans le mur du fond, une porte ouvre sur une autre pièce où une jeune femme joue du piano. Enfin, une grande fenêtre éclaire les deux pièces. Remarquez le poêle sur le mur de gauche de la première pièce. Le tuyau d'évacuation de la fumée détruit toute l'harmonie de la pièce. Martin Drolin, au début de sa carrière, est employé comme assistant à Elisabeth Bigier-Lebrun pour peindre des objets dans ses toiles. À cette époque, il fait la connaissance de Jean-Baptiste Greuze. De cette rencontre, il développera une grande habileté dans la représentation des scènes d'intérieur. Puis il s'orientera vers la décoration sur porcelaine dans différentes manufactures. Et en 1800, il intégrera la prestigieuse Manufacture nationale de Sèvres. Bien qu'aujourd'hui il soit oublié, il était suffisamment connu au début du 19e siècle pour être cité par deux fois par Honoré de Balzac dans la Comédie humaine. La première fois dans La femme de 30 ans et la seconde dans Pierre Grassou. Une légende noire est attachée au tableau « L'intérieur d'une cuisine ». Pour la comprendre, il nous faut revenir sur la formation des peintres jusqu'au milieu du 19e siècle. La formation initiale de tous les peintres commençait par l'apprentissage du broyage des pigments. Il n'y avait alors pas de peinture standard en tube comme aujourd'hui. C'est ainsi que des peintres ont pu créer des couleurs étonnantes qui leur sont propres, comme le jaune de Mantegna ou encore le vert de Véronèse. Depuis la Renaissance, un brun est très recherché, le brun de momie. Cette couleur est obtenue en broyant des momies égyptiennes. Il faut savoir que la momie ou mumie, durant le Moyen-Âge et la Renaissance, était le remède souverain, soignant aussi bien les corps aux pieds que la syphilis. La demande de momies était si importante que l'Égypte se mit à fabriquer de fausses momies en desséchant des cadavres d'indigents. Au XIXe siècle, on trouvait encore des vendeurs de momies en Égypte. Les pharmacies du XVe au XIXe siècle stockaient les remèdes dans des pots en céramique, les albarellos. Généralement, les albarellos portaient une inscription permettant d'identifier leur contenu. C'est ainsi que l'on peut en trouver portant l'inscription « momie ». La peinture obtenue en broyant de la momie donne un brun rougeâtre très recherché par les artistes de la fin du XVIIIe siècle. Que dit la légende noire du tableau « L'intérieur d'une cuisine » ? Après que la Révolution ait mis à sac les tombes des rois ainsi que leurs monuments de cœur, un individu s'est accaparé les cœurs des rois et des membres de la famille royale. Ce dernier vendit à prix d'or 45 cœurs à deux peintres. L'un d'eux se trouve être Martin Drolin. Martin Drolin se serait servi des cœurs momifiés des rois pour réaliser le fond brun-roux de l'intérieur d'une cuisine. Pendant longtemps, les historiens ont rejeté cette légende qu'ils prenaient pour une pure invention. Mais voilà, en 2022, des prélèvements ont été effectués sur le tableau. L'analyse génétique a montré que l'échantillon contenait des cellules cardiaques humaines. Mais il n'a pas été possible d'obtenir l'autorisation de faire des prélèvements sur les restes royaux encore conservés à la basilique Saint-Denis, afin de pratiquer un séquençage ADN. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été possible de faire toute la lumière sur cette étrange affaire. C'est sur cette histoire un peu sordide que s'achève ce racontard. Je suis reconnaissant à Marie et à Quentin pour leur soutien dans la réalisation de cette émission. Vivement le mois prochain pour avoir le plaisir de vous retrouver pour un nouveau racontard.
BLP Radio. BLP.